Bon, nous allons poursuivre notre étude sur la théologie réformée systématique. On en est rendu à la leçon 22. Aujourd'hui, nous allons regarder les propriétés de la parole écrite de Dieu dans la partie 5, donc sa suffisance. On va regarder aujourd'hui la suffisance de la parole de Dieu définie. Deuxièmement, on va regarder la suffisance de la parole de Dieu clarifiée. Et on va regarder, troisièmement, la suffisance de la parole de Dieu des avertissements. Les grandes doctrines des réformateurs, contrairement à celles de l'Église catholique romaine, sont parfois résumées dans les cinq solas, ou ce qu'on appelle les déclarations seules, l'Écriture seule, la grâce seule, le Christ seul, la foi seule, et la gloire de Dieu seul. La première d'entre elles, sola scriptura, est en son cœur une affirmation de la suffisance de la Bible. Le fait que la Bible est la parole écrite de Dieu, suprêmement autoritaire et auto-authentifiante, claire dans ses doctrines, nécessaire au salut et à la vie de l'Église, unifiée dans son témoignage au Christ, efficace par l'œuvre de l'Esprit et infailliblement vrai en tout ce qu'il déclare, ça implique que la Bible est uniquement suffisante comme révélation spéciale de Dieu pour nous aujourd'hui. Cependant, alors que la suffisance de l'Écriture découle de ses autres propriétés, c'est une doctrine distincte en soi que nous devons enseigner et soutenir de peur que l'Église ne construise avec de la paille et du bois au lieu de l'or et de l'argent impérissable de la vérité divine. Donc, on va regarder le premier point, la suffisance biblique définie. La doctrine de la suffisance des Saintes Écritures déclare que tout ce qui concerne la foi salvatrice et la vie spirituelle est enseignée dans la Bible. Il n'y a aucun mandat ou besoin pour l'Église de fonder sa doctrine ou ses directives sur quoi que ce soit d'autre, que ce soit la tradition de l'Église, les opinions des hommes ou la sagesse de ce monde. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder quelques chrétiens des siècles passés et ce qu'ils affirmaient concernant la suffisance de la Bible. On va commencer par Irénée, qui a vécu entre l'an 130 et l'an 202 avant Jésus-Christ. Il a écrit « Nous n'avons appris de personne d'autre le plan de notre salut que de ceux par qui l'Évangile est descendu jusqu'à nous, qu'ils ont proclamé à un moment donné en public et à une période ultérieure par la volonté de Dieu qui nous a été transmis dans les Écritures pour être le fondement et le pilier de notre foi. » On va regarder un autre, Cyprien, qui a vécu entre l'an 200 et l'an 258 avant Jésus-Christ. Lui, il avait répondu, « Si donc cela est soit prescrit dans l'Évangile, soit contenu dans les Épîtres ou les Actes des Apôtres, que cette tradition divine et sainte soit observée. » Il a soutenu, « Quelle obstination est-ce ou quelle présomption de préférer la tradition humaine à l'ordonnance divine et de ne pas observer que Dieu s'indigne et se fâche aussi souvent que la tradition humaine se détend et passe par les préceptes divins. Il a averti avec les mots suivants. La coutume sans vérité est l'antiquité de l'erreur. Maintenant, au temps de la Réforme, on a mis l'accent sur la suffisance de la Bible en tant que révélation spéciale, en opposition à l'affirmation catholique romaine, selon laquelle la Bible devait être complétée par la révélation transmise dans les traditions de l'Église. Jean Calvin, un des grands réformateurs qui a vécu de 1509 à 1564, a dit « Toute notre sagesse est contenue dans les Écritures et nous ne devons ni apprendre ni les enseignants tirer leurs instructions d'une autre source. » William Perkins, qui était un grand puritain, qui a vécu de 1558 à 1602. Perkins était un leader des puritains. Il a écrit « La suffisance est ce par quoi la parole de Dieu est si complète que rien ne peut y être ajouté ou retranché. » William Ames, qui a vécu de 1576 à 1633, a dit « Toutes les choses nécessaires au salut sont contenus dans les Écritures et aussi les choses nécessaires à l'instruction et à l'édification de l'Église. » Maintenant, on va regarder deux affirmations, une tirée de la Confession de foi de Westminster et l'autre de la Confession de foi baptiste de Londres. Commençons par la Confession de foi de Westminster, 1646, qui est une confession de foi très répandu chez les presbytériens. Alors, la Confession de foi de Westminster de 1646 offre un résumé utile de la doctrine de la suffisance de l'Écriture. Elle dit « Tout le conseil de Dieu, concernant tout ce qui est nécessaire à sa propre gloire, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est soit expressément établi dans l'Écriture, ou par une bonne et nécessaire conséquence, peut être déduite de l'Écriture, à laquelle rien, à aucun moment, ne doit être ajouté, que ce soit par des nouvelles révélations de l'Esprit ou des traditions des hommes. » Regardons une autre confession de foi, la nôtre, la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui dit « Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toutes les choses nécessaires à la gloire de Dieu, au salut de l'homme, à la foi et à la vie, est ou bien expressément consigné dans l'Écriture sainte, ou y est contenu de façon nécessaire. Rien, à aucun moment, ne peut lui être ajouté, ni par une révélation de l'Esprit, ni par des traditions humaines. La suffisance de l'Écriture est limitée au but de la Bible de révéler la vérité pour notre salut et notre obéissance. » On va regarder maintenant quelques passages des Écritures qui nous parlent du même concept. Alors, regardons le psaume 19, les versets 7 à 11. « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Regardons maintenant un passage dans le Nouveau Testament, Jean, chapitre 20, verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. » Un autre passage du Nouveau Testament, dans l'épître de Paul, le deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comme toute activité humaine doit viser la gloire de Dieu, La Bible est donc suffisante pour nous guider vers ce but et plaire à Dieu dans toutes les facettes de la vie. La Bible n'aborde pas toutes les situations morales imaginables dans ses lois, mais énonce des principes de moralité et de sagesse afin que nous puissions, par l'esprit, par un raisonnement éliminé par l'esprit dans la crainte de Dieu, déduire la volonté de Dieu pour nous. Passons maintenant au deuxième point, la suffisance biblique clarifiée. La suffisance de la Bible ne devrait pas non plus être comprise comme excluant l'utilisation des aides de l'Église, telles que le ministère et les travaux des enseignants et des érudits, anciens et modernes, ou les croyances et les confessions de foi. Ceux-ci ne doivent pas être rejetés, mais accueillis comme des moyens que le Saint-Esprit utilise dans le corps de Christ. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez aller vérifier dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, et aussi dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Cependant, ils sont subordonnés à la Bible de telle manière qu'ils n'ont l'autorité divine pour diriger notre foi et notre obéissance que dans la mesure où ils reproduisent et appliquent fidèlement les enseignements de l'Écriture. Le principe de l'Écriture seule, correctement compris, ne signifie pas que l'Église opère par la Bible seule, sans référence aux traditions de l'Église à travers les âges. Au contraire, le sola de sola scriptura signifie que la Bible seule est la source de tous les enseignements et traditions faisant autorité. Ce point doit être particulièrement souligné dans une culture qui met l'accent sur l'individualisme radical et la liberté personnelle. L'efficacité de la parole de Dieu vient de l'activité actuelle du Saint-Esprit. On pourrait aller voir 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Alors, pour cette raison, la confession de foi baptiste de Londres de 1689 affirme « Nous reconnaissons cependant que l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension salvifique de ce qui est révélé dans la parole. » Il y a deux passages qu'on pourrait aller voir, Jean chapitre 6, verset 45 et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. Nous devons cependant toujours nous rappeler que l'Esprit est souverain et libre d'appliquer la parole, comme on pourrait le lire dans Jean chapitre 3, verset 8. Il est souverain et libre de l'appliquer comme il l'entend, que ce soit pour endurcir les méchants ou pour les transformer par la grâce. Regardons deux passages. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Regardons maintenant Romains chapitre 9, verset 18 à 21. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? La suffisance de la parole écrite de Dieu ne signifie pas que la Bible contient toutes les révélations spéciales accordées tout au long de l'histoire rédemptrice. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les évangiles, qu'on peut lire ces affirmations-là dans Jean chapitre 20, verset 30, et Jean chapitre 21, verset 25. Certaines choses que Dieu a révélées aux apôtres, il leur a également interdit de les rapporter à l'Église. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4 et Apocalypse chapitre 10, verset 4. De plus, il y avait des événements historiques liés à l'ancien peuple de Dieu qui, bien qu'ils aient pu être enregistrés dans d'autres écrits qui n'existent plus, n'étaient pas inclus dans la Bible. Cependant, la Bible contient toutes les choses que Dieu veut faire fonctionner comme canon ou règle de foi et d'obéissance pour son peuple. Bien que la suffisance de l'Écriture nous informe tout de la vie en ce qui concerne la manière de plaire à Dieu, elle a une pertinence particulière pour l'activité sacrée de l'Église et de ses officiers. Dans les actions de l'Église en tant qu'Église, la suffisance de l'Écriture implique ce qu'on appelle le principe régulateur, qui veut dire qu'il faut adorer Dieu comme Dieu l'a commandé, non selon des idées humaines d'adoration, ni ajouter, ni soustraire à sa parole. Notre confession de foi nous rappelle ces choses. Par exemple, au chapitre 22, paragraphe 1, ça dit « La lumière de la nature montre qu'il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est juste, bon et fait du bien à tous, et qui, par conséquent, doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par les hommes de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Mais quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les Écritures. » Il y aurait beaucoup à dire là-dedans. Dans le fond, c'est de dire qu'on ne doit pas adorer de n'importe quelle façon, mais on se doit d'adorer selon les précisions que le Seigneur nous a laissées dans les Saintes Écritures. Ainsi, le principe régulateur doit être nuancé. La Bible suffit à nous enseigner quels doivent être les objets, les éléments, le contenu et les occasions du culte, mais elle ne détermine pas les questions circonstancielles de lieu, de durée, du nombre des services, etc. Alors, la même confession de foi, 1689, précise les éléments qui devraient être présents dans un culte religieux public. Alors, on lit au chapitre 22, le paragraphe 5. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Cène. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu, avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. De plus, de solennelles humiliations, accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce, en des occasions particulières, doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. Alors, ceux qui auront téléchargé les notes, vous allez pouvoir regarder qu'à l'intérieur de cette déclaration-là du chapitre 22 de la Confession de foi 1689, il y a une multitude de références bibliques que vous pourriez aller voir, et c'est toujours bon d'aller les voir parce que ça solidifie le côté vraiment solide de la Confession de foi 1689. La troisième idée qu'on va aller regarder, c'est la suffisance biblique, quelques avertissements. Alors, un des avertissements qu'il nous faut faire, c'est celui de ne rien ajouter, ni de rien retrancher aux Saintes Écritures. On lit, par exemple, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » On a aussi un autre passage dans le Proverbe, chapitre 5, versets 5 et 6. « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. » Deux autres passages, Apocalypse, chapitre 22, versets 18 et 19. « Je les déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Ésaïe, chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. La tradition ne peut pas non plus être ajoutée à la Bible en tant que dépositaire, distinct de la révélation divine. Ésaïe, le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul mettent tous en garde contre la doctrine basée sur le précepte des hommes. On va regarder les trois passages. Dans Ésaïe, chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Maintenant, regardons ce que Jésus dit dans Marc, chapitre 7, versets 6 et 7. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Et regardons ce que dit l'apôtre Paul à Colossiens, chapitre 2, versets 20 à 22. « Si vous êtes morts avec Christ au régiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on des préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Donc, la première chose qu'on se devait de regarder, c'est... Et le deuxième avertissement, c'est que la Bible nous informe du fait qu'elle est complète, de sa complétude. Les Saintes Écritures sont suffisantes pour notre instruction morale. Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » La Bible est suffisante pour la repentance évangélique et la foi à salut. Lorsque Christ parle de l'homme riche en enfer et de Lazare avec Abraham au ciel, il présente l'homme riche comme niant la suffisance de l'Écriture. L'homme riche demande à Abraham de renvoyer Lazare d'entre les morts pour avertir les frères de l'homme riche. Mais Abraham dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, » l'homme riche y répond, « Non, père Abraham, mais est-ce un aller vers eux d'entre les morts? Ils se repentiront. » En d'autres termes, l'homme riche croit que la Bible ne suffit pas. Les gens ont besoin de voir des miracles. Les paroles d'Abraham dans l'histoire du Christ sont saisissantes. S'ils n'écoutent pas, Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même s'il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts. On va aller regarder quelques passages là-dessus. Luc chapitre 16, versets 27 à 31. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur attiste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Allons voir aussi Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quelques versets avant de faire les applications de notre étude. Trois passages. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Également dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 20 et 21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Et terminons par 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, trois applications, autrement dit, des choses qu'on doit mettre en pratique après cette brève étude-là sur la suffisance de la parole de Dieu. Première application, nous devons résister aux attaques contre la suffisance de la Bible. Méfions-nous aussi de ceux qui prétendent à une révélation continue, comme si la Bible n'était pas complète et de façon définitive. Deuxième application, peu importe les questions que nous nous posons ou les difficultés que nous rencontrons, allons toujours avec confiance vers les Saintes Écritures pour des réponses et des solutions. Cela n'implique pas que nous refusions absolument d'autres sources d'aide humaine. Si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu, comme on peut le lire dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Troisième application, soyons très prudents face à l'utilisation de la sagesse humaine et de ses méthodes pour bâtir l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce d'aimer les Saintes Écritures plus que jamais pour nous instruire, nous guider et nous édifier pour sa plus grande gloire.